Vous n'êtes pas dans la banque, vous?
Non. Non, alors en ce moment, je suis plutôt dans la brosse à dents. C'est une brosse à dents entièrement écologique et qui va révolutionner le marché. C'est une belle avancée technologique.
CO2, mon amour.
Et le coup de génie d'Alain, c'est d'avoir créé ça. L'IP005, la brosse à dents verte, avec un manche en bois de pin, 100% européen, avec une brosse en poil de sanglier.
Alors, ça risque pas de rebuter les gens, le poil de cochon?
Oh non, pas du tout.
Avec Denis Chessoux.
Tu veux essayer?
Non.
Si, vas-y, elle est neuve. Ah. Tu vas voir, c'est une expérience...
Ah ouais.
T'as vu?
Ah ouais.
Le confort, et puis en même temps, c'est...
Sur France Inter.
Ah ouais. Une quasi-brosse à dents de rêve. Vous avez reconnu évidemment Bakri, c'était... Un extrait de la vie privée de Monsieur Sim. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, qui tente de rapprocher les hommes en nous rapprochant de la nature. CO2 de mon amour avec aujourd'hui Henri Bérec à la technique et assisté de Camille Blanès. C'est à la fois Xavier Pestudia et Jérôme Boulet qui ont réalisé cette émission. Alors, nous avons besoin de nous débarbouiller le visage avec des bonnes nouvelles, les seules audibles en ce moment. Et un bout de lumière, donc, nous vient des États-Unis, ça vous l'avez compris, l'accord de Paris et la science ne seront plus piétinés. Alors certes, le réchauffement ne baissera pas d'un coup de pipeline magique, non. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, au moins, la Terre arrêtera d'être plate. Et en attendant le débat sur la condition et la souffrance animale cette semaine, qui sera tout à fait révélateur d'un certain degré de civilisation de notre pays, eh bien, good news qui vient de notre représentation nationale. Dans le marasme pandémico-politico-économique actuel, eh ben ça y est, la campagne se rebiffe. La ruralité se refait une couleur, se repomponne face à d'intolérants citadins qui veulent vivre près de la nature, mais... comme des citadins qui supportent pourtant les bruits de la ville, et ils sont nombreux, mais pas à la campagne. Eh ben non. Alors le Parlement, dans l'enthousiasme général, s'est dressé sur ses ergots, et la loi sur le patrimoine sensoriel est votée par le Sénat, et à l'unanimité, s'il vous plaît. Nous qui pensions le gouvernement emberlificoté dans ses comptes de vaccins, de seringues et les décisions cruciales à prendre concernant notre santé, et qui par ailleurs assure pour que ce pays ne s'écroule le moins possible, eh ben, quelle jolie surprise de constater qu'il se souciait aussi de réglementer le chant des grenouilles, le caquettement des poules, le braiement des ânes et les troubles de voisinage. Alors, chant du coq ou de cigale, effluve de crottin de cheval ou d'étable était appelé à la barre. Eh ben, ça va se terminer. Le fumier redevient en odeur de sainteté, clochette et sonnaille de vache ont droit de cité, Maurice le coq, Maurice. Et ses générations futures pourront s'égosiller et saluer en paix le soleil. Alors, la richesse de nos terroirs ne pouvait pas manquer de remettre à sa place ou sa botte quelques rats des villes à la feuille mal embouchée, bouffeur de terres agricoles par ailleurs, bâtisseur de résidences secondaires, de cours de tennis, exterminateur de cigales. Eh ouais, c'est sensible, hein, ces bêtes-là qui viennent de la ville. Ça, l'oreille et la narine fragile, et ça voulait faire régner une terreur jacobine dans les chemins vicinaux et les poulaillers. Et certains souhaitaient même couper les cordes vocales des clochers de France. Eh oui. Derrière tout cela, il y a quand même l'envie de campagne des urbains, augmentée par le confinement qui débarque dans un coin en conquérant au petit pied. Les litiges de voisinage ne pouvaient qu'augmenter, alors il s'agit en fait d'envoyer un signal dissuasif en matière de plainte pour nuisance. Et au-delà de Maurice, le coq de l'île de Léron, eh ben on a quand même eu droit, ouais, vous allez voir, à des vacanciers qui en 2018, dans le Var, ont réclamé le recours à des insecticides pour se débarrasser de cigales trop bruyantes. Dans le Puy-de-Dôme, il y a une procédure de gens de la ville qui se plaignaient de déjection d'abeilles. Bon, alors vous allez me dire, il y a encore un petit peu de travail, mais les anciens plaignants pourront toujours se rabattre, vous savez, sur le taille-haie et la tondeuse trois fois par semaine en guise de représailles. Allez, malgré tout, on avance. Et l'animal donc fétiche et totem aujourd'hui, ce ne sera pas l'âne, mais vous aurez à dire, je ne sais pas comment faire une émission sur l'âne là, que j'ai tournée, mais ce sera pour un peu plus tard. Non, on va s'intéresser donc à cette chauve-souris qui n'a pas toujours bonne presse. Eh bien, c'est une erreur, hein, on ne la connaît pas forcément bien et elle est très utile. Got down on my knees.
She's grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
Et après du très bon Springsteen sur France Inter, choisi par Thierry Dupin, oh que vois-je, une main ailée. Ah bah oui, c'est la signification de chiroptère.
Alors vous voyez cette petite chauve-souris, en Corse, l'écorce, elle est très commune en Corse, elle est plus commune dans le sud de la France que chez nous. Ils appellent ça le petit sac pendu, parce que ça ressemble effectivement à... Elle se replie. Quand là, elle est tranquille, il vient de faire froid, donc elle bouge pas, elle nous regarde. Elle va peut-être se réveiller, mais pour le moment, elle est un peu en léthargie. Ces chauves-souris, quand il fait un peu plus froid comme aujourd'hui, eh bien, elles sont capables de se mettre en léthargie pour s'économiser, parce que ça va être plus difficile pour elles de chasser à l'extérieur. Voilà. Alors quand on la dérange trop, je pense qu'elle va partir, elle va repartir dans les tuyaux. Ah ben voilà, elle est partie.
Alors un syndicat de chauves-souris m'a contacté à la nuit tombante, c'était au mois de juillet, c'était un soir. « S'il vous plaît, Denis, réhabilitez-nous, le pangolin c'est fait, mais nous, ce n'est pas de notre faute si on est porteuse de virus. Et d'ailleurs aucun animal, dont vous, l'humain, existe sans virus. » Alors certes, Johann Strauss nous a dédié une opérette, mais quand même, on voit bien qu'on n'a pas exactement la cote. Alors, mon petit Dracula, tu vas écouter cette émission, histoire de te remettre les idées en place et d'arrêter de nourrir le délit de sale gueule de la chauve-souris. C'est le seul quand même mammifère volant, 55 millions d'années à peu près, au compteur, donc qui a pu côtoyer les brontosaures, les tricératops, ce qui dit mieux. Alors, vous ne croiserez pas dans cette émission le calongue quand même, qui est la plus grande chauve-souris du monde, 1m70 d'envergure. Non, mais plutôt la plus petite espèce européenne, la pipistrelle, 20 cm, 4-5 grammes. Là, tout va très bien se passer. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'elles font? Elles hibernent, c'est l'hiver, et n'écouteront pas cette émission, mais elles se rattraperont en podcast au printemps, après le troisième confinement. Le lieu, nous sommes dans le département de l'Isère, les contreforts du massif de la Chartreuse ne sont pas loin, on est donc près de Voiron. Et notre chauve-souris-man, c'est Jean-François Noblet, qui anime l'association du Pivert, naturaliste engagé, qui secoue toujours intelligemment les décideurs, les élus, la population, en les embarquant tout à fait positivement dans l'aventure du vivant.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Denis.
Qu'est-ce que je vois là sur un bâtiment, ami pipistrelle? Tourne dans la nuit, légère et sans bruit. Et alors, on va tout de suite raconter où nous sommes. Parce qu'en fait, le bâtiment est assez peu avenant. Allez.
C'est un parallépipède traditionnel qui abritait une station de relevage de l'eau potable,
ouais,
qui alimente la commune de Voiron.
Bon.
Donc, un énorme tuyau qui passait là. Ce tuyau était percé. Il passait là dans ce bâtiment. Ce bâtiment a été donc abandonné puisque le nouveau tuyau passe maintenant sous la route et qu'il est rénové.
Et donc votre association, donc le Pivert, a hérité de ce merveilleux bâtiment.
Et donc on l'a transformé en gîte à chauves-souris. Il était question de le démolir, de l'emmener dans une décharge. Oui. Ça comblait une décharge, ça coûtait 12 000 euros. Et ça faisait des camions, des allers-retours, de la pollution. Alors nous, on a pensé que dans ce secteur-là, qui est une petite vallée sympa de la Morge avec beaucoup de végétation.
On est vraiment sur le début de la Chartreuse.
Voilà, et bien c'est très favorable pour les chauves-souris. Donc on a dit, écoutez, nous on fait quelque chose pour les chauves-souris. Alors on a étanchéifié le toit, végétalisé, on a mis plusieurs mètres cubes de terre sur le toit pour que ça soit plus chaud à l'intérieur. Et comme il y avait des tags dégueulasses sur le côté...
Ah bah dites donc, vous avez fait appel quand même à une bonne ou un bon là.
Agir un tagueur, un jeune tagueur professionnel. Et donc on lui a demandé de nous faire cette belle fresque sur le thème des chauves-souris. Et puis on a demandé à nos adhérents de faire des haïkus sur le thème des chauves-souris. Vous voyez, il y en a un autre qui est là, légère et
ailée. Légère et ailée comme un souffle nocturne, caresse le ciel.
Voilà. Alors on a aménagé ce bâtiment. Et ça marche, et on a des chauves-souris qui viennent dedans. Donc on a fait faire des économies à la collectivité, et c'est bon pour l'écologie. Une fois de plus, économie, écologie, rime. Alors, c'est évidemment fermé à clé. On va ouvrir tout doucement et on va voir si aujourd'hui il y a des chauves-souris.
Ne vous inquiétez pas, vous ne les prendrez pas dans les cheveux. De toute façon, elles ne s'accrochent pas dans les cheveux. Ne flippez pas. Hop. Oh. Bonjour madame. Bon, on y va très doucement, une deuxième porte.
On voit ce petit rhinolophe là, ici. Là.
Ah oui.
C'est une chauve-souris qui se suspend dans des volumes. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes catégories de chauves-souris. Il y a les chauves-souris qu'on voit dans des fissures, qui se mettent derrière des volets, qui rentrent dans des fentes de rochers, ou dans des trous d'arbres, des trous de pics par exemple. Mm-hmm. Et celle-là, c'est une chauve-souris qui vit dans des volumes. Et donc, elle en a de moins en moins dans le secteur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bouché toutes les fenêtres. On a mis des petits grillages au plafond pour qu'elles puissent venir. Et c'est un biotope qui lui convient très bien parce que c'est très humide et en même temps c'est chaud. Alors on voit toutes les goyaux.
Tous les goyaux, les fientes. Hein.
C'est des petites crottes minuscules qui ressemblent à des crottes de souris, mais quand on appuie dessus, ça tombe en poussière et ça brille. Vous voyez, on voit bien, c'est de la chitine d'insectes, elle mange des insectes, donc ça brille parce qu'il y a des petits morceaux de chitine d'insectes. Oui.
Et c'est un excellent engrais. Hein.
Ah, c'était. Alors, on en a mais ici un gros stock, parce que les chauves-souris sont des mammifères qui sont très sensibles à l'odorat.
Je viens bien le rappeler, mammifères, donc, ouais. Qui allaitent ses petits.
Voilà. Et donc, on a mis du guano de chauves-souris qu'on a récolté dans une colonie pour attirer cette espèce qui vient ici régulièrement.
Avec la morge qui coule à nos pieds.
Alors, à l'extérieur, on a fait un bardage en bois, justement pour, on va aller voir, pour des chauves-souris qui vivent dans des bardages, derrière des volets.
Oui, parce qu'on en a quand même pas mal qui vont se planquer dans les maisons, alors où elles peuvent.
Voilà, côté sud, bien exposé.
Bardage en bois, elles peuvent se glisser.
Elles se glissent, on l'a fait exprès. Donc il y a un espace qui fait à peu près 2 cm, 1,5 cm, 2 cm, à différents endroits, pour que les chauves-souris puissent venir se glisser derrière et profiter de la chaleur. En été, les chauves-souris ont besoin de chaleur. Donc elles ont besoin de gîtes qui sont sombres, qui sont chauds et secs. Par exemple, ça arrive souvent qu'on trouve des chauves-souris derrière des panneaux publicitaires, sur un mur, ou derrière des volets. Et si vous mettez la main sur le panneau, ça vous brûle. Parce qu'une chauve-souris, en temps normal, c'est 39 degrés. C'est un peu plus chaud que nous, comme mammifères. Voilà. Et ces chauves-souris, en hiver, à l'inverse, elles ont besoin d'endroits qui sont à température stable, entre 0 et 10 degrés, mais en gros, entre 5 et 10, c'est l'idéal, mais il y a des chauves-souris qui supportent des températures proches de 0 degré. Mais il faut que ça soit très humide. Pourquoi ? Parce que les ailes des chauves-souris, qui sont très richement vascularisées, mais qui n'ont pas de poils, pour la plupart des espèces, et il ne faut pas qu'elles se dessèchent. Et donc, elles ont besoin d'avoir
une dose de l'humidité.
Et en plus, pendant l'hiver, les chauves-souris, elles hibernent, donc elles tombent en léthargie, leur rythme cardiaque et respiratoire se ralentit prodigieusement, 600 pulsations par minute en période normale, en été, et quelques pulsations par minute pendant l'hiver. Et pendant l'hiver, des chauves-souris peuvent arrêter de respirer, certaines espèces, jusqu'à 90 minutes, ce qui est quand même assez hallucinant. D'ailleurs, on se pose la question de savoir si ce n'est pas le secret de la longévité. Parce que les chauves-souris, contrairement à des musaraignes du même poids, elles arrivent à vivre 30, peut-être même 40 ans pour certaines espèces, alors qu'une musaraigne, elle vit 3 ans. Alors, il y a certaines personnes qui imaginent que c'est le secret de la longévité.
Transposer ça gentiment, oui.
Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que moi, dès que l'hiver arrive, qu'il commence à faire froid, je dors beaucoup plus, je me calme,
oui, c'est ça.
Je reste au chaud. Et j'ajoute que les sites de repos et de reproduction sont protégés par la loi. C'est-à-dire, si vous avez des chauves-souris qui vivent dans votre grenier, vous n'avez pas le droit de modifier votre grenier, de faire partir les chauves-souris, sans une autorisation du ministère de la Transition écologique.
Oui, j'imagine bien qu'ils ont que ça à faire. Oui, il y en a qui vont détester l'écologie. Hein,
non, parce qu'en fait, ils ont tout à fait raison d'avoir des chauves-souris. Moi, j'ai dit toujours aux gens qui ont des chauves-souris chez eux, comme c'est mon cas, on a de la chance, parce qu'on a la chance d'avoir des insectivores qui travaillent autour de notre environnement et donc qui nous évitent d'avoir des blattes, des papillons nocturnes qui viennent combler les lampadaires,
des moustiques, de plus en
des,
plus
moustiques des mouches, etc. Voilà. Donc les éleveurs et même les gens dans leur maison, ils ont tout à fait intérêt d'avoir des chauves-souris. Et s'il y a des chauves-souris, ça veut dire qu'il y a des insectes, ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides. Parce que les chauves-souris qui sont des prédateurs, elles concentrent chaque fois qu'elle mange un moustique ou un insecte qui serait touché par des pesticides, elle va avoir une petite dose de pesticides. Comme elle en mange 60 000 dans l'année, ça va concentrer les pesticides dans les chaînes alimentaires. Et donc les chauves-souris sont très sensibles à ces pesticides, autant que nous humains. Et donc si on a des chauves-souris qui vivent dans son quartier ou près de sa maison, ça veut dire que l'environnement est de bonne qualité et qu'on a moins de problèmes de santé nous-mêmes.
Jean-François Noblet, parmi les 34 espèces qui vivent aujourd'hui donc en France de chauves-souris, on connaît la pipistrelle commune, c'est quoi la guestard la plus connue ?
Alors, la chauve-souris la plus commune, c'est la pipistrelle, mais il y a aussi les oreillards parce qu'ils ont des grandes oreilles. Mais moi, j'aimerais vous parler d'une espèce qui s'appelle la grande noctule, qui est une formidable espèce qui vient d'être découverte en Isère, mais qui maintenant est de plus en plus connue dans toute la France. C'est une chauve-souris forestière qui fait des migrations de centaines de kilomètres et qui fait 60 cm d'envergure. C'est une grosse bête. Et alors, on vient de découvrir, et moi, c'est là que je l'ai observé pour la première fois, à Gibraltar, ces chauves-souris, elles surveillent les migrations des petits passereaux qui retournent en Afrique ou qui reviennent d'Afrique. Et alors, elles les capturent et elles mangent des petits passereaux qui passent en migration vers Gibraltar. Et on vient de découvrir ça, c'est tout récent. D'ailleurs, les scientifiques sont en train de se dire, c'est bizarre, une bête qui se reproduit très peu, c'est-à-dire elle fait un petit, exceptionnellement deux par an, qui vit très longtemps. Ça ressemble étonnamment à la reproduction de nous, les humains, des primates. Ça s'apprivoise très facilement. Moi, en deux jours, quand j'ai une chauve-souris blessée, quand je lui donne à manger, elle a tout de suite compris comment il fallait qu'elle vienne choper le verre de farine que je lui donne, et elle sera très contente que je la mette dans ma poche parce qu'elle profitera de la chaleur de mon corps. Donc c'est des animaux qui s'apprivoisent très bien, qui sont très intelligents, qui ont des capacités extraordinaires. Aujourd'hui, on pense qu'elles sont plus proches des primates, des singes, que des musaraignes. On pensait que c'était des musaraignes qui étaient montées sur les arbres et qui petit à petit avaient appris à voler. Eh bien non, c'est probablement des animaux qui sont plus proches des singes.
Le vivant est toujours une source merveilleuse d'interrogations et donc de connaissances. Et puis cette chauve-souris, c'est le symbole de la Fédération française de spéléologie. Oui, oui. On ne quitte pas le département de l'Isère. Oui, on va y retourner d'ici, allez, 3 minutes.
Professeur Abronsius, j'ai eu l'occasion de parcourir votre ouvrage, La chauve-souris et ses mystères.
CO2, mon amour.
Ainsi, vous vous êtes égaré.
Non, non, en réalité, nous étions partis à la poursuite d'un chiroptère.
Tiens. Je croyais que les chauves-souris étaient en hibernation durant les mois d'hiver.
Ah, pas toujours, votre excellence.
Avec Denis Chessou sur France Inter.
Un petit peu de bal des vampires, ça ne peut pas faire de mal dans ces roues de mon amour. Donc autrefois, on l'appelait en fait la chouette souris, kawasouri, que j'ai appris ça. Parce que, bon, bien sûr, l'animal ressemble à une souris qui vole la nuit, ça on comprend bien. Et le terme, après, s'est transformé en calvar, et c'est devenu chauve-souris. Puis quand même, on va saluer aussi Clément Ader. Eh ben ouais, parce que notre ingénieur français, quand il a conçu son éole, donc cette machine volante avec cette voilure complexe, il a imité qui ? Eh ben les ailes de la chauve-souris. Eh oui, non, il faut vraiment la réhabiliter. Bon, alors si votre costume de Batman ne vous sert pas trop, on y retourne avec Jean-François Noblet en Chartreuse, dans l'Isère.
On va aller discuter près de la rivière.
Si on va faire ça. Attendez, je passe. Hop ! Une, deux, trois, là. Ils sont passés au milieu de la route. C'est pas complètement la nuit. On les voit encore très très bien. Bon, on va tuer tout de suite, hein, pendant qu'on y est, le côté sangsue, vampire, chez les chauves-souris, et puis qui s'accrochent dans les cheveux. On va démonter un peu tout ça. Je crois qu'il y a qu'une seule espèce qui existe En Amérique du Sud?
Oui, bah, évidemment. Bon, alors les chauves-souris ont mauvaise presse, ça c'est clair. Les chauves-souris qui boivent le sang, qui lèchent le sang plutôt, sont des vampires. Il y en a trois espèces d'Amérique du Sud ou centrale. Une seule s'attaque à l'homme, éventuellement, donc ça peut être gênant.
Mais on se compète ça, j'ai parlé. Hein.
Ouais. Mais bon, en Europe, c'est pas le cas. Et puis, pour les gens qui pensent que ça s'accroche aux cheveux, en fait, j'ai trouvé l'explication, elle est très simple. Autrefois, dans les villages, les mères de famille, les grands-mères, ne savaient pas comment retenir les jeunes filles qui voulaient aller fauter le soir au bal du village voisin avec les garçons. Oui. Bon, alors il fallait trouver quelque chose de suffisamment bizarre, de suffisamment étonnant, de nocturne aussi, pour leur dire, tu sais, si tu vas au bal le soir dans le village voisin, tu vas revenir, tu auras des chauves-souris dans les cheveux et tout le monde saura que tu as été faire des bêtises. Alors,
c'était les fake news de l'époque. Quoi.
Voilà.
Et donc, pour revenir, Jean-François, aux observations qui ont bougé, qui ont changé.
Oui, ben, autrefois, le naturaliste, le chiroptérologue, il sortait la nuit, il prenait ses filets et il allait chercher un endroit favorable pour que les chauves-souris, parce que les chauves-souris ont besoin de boire tous les soirs. Donc, une rivière, quand elle a une zone un peu plate, un peu large, qui a de la végétation de chaque côté, on met un filet à travers, on a de grandes chances d'attraper les bêtes. Et donc, on attrape ces chauves-souris, on les enlève très très vite du filet, on surveille toujours près du filet, et on peut savoir l'espèce, le sexe, l'âge, et donc le statut de l'animal.
Et alors aujourd'hui,
c'est... Et alors maintenant, c'est incroyable, maintenant, les scientifiques qui travaillent sur les chauves-souris, ils amènent un petit récepteur d'ultrasons, une petite boîte numérique, là, qui pose comme ça dans un endroit, ça enregistre pendant... Alors ça peut enregistrer pendant un mois, toutes les chauves-souris qui passent, et après, avec leur ordinateur très compliqué, très cher, ils passent des jours et des jours devant l'ordinateur, dans leur bureau, c'est-à-dire la partie travail de terrain se limite à poser un récepteur d'ultrasons, et puis surtout après, bah, il faut travailler pendant des années pour reconnaître les différents cris des chauves-souris. C'est pas la même poésie de se mettre les pieds dans l'eau et d'attendre la tombée de la nuit, de voir éventuellement un cincle ou un martin pêcheur qui passe, voir une loutre. Et surtout, on apprend beaucoup de choses sur son statut. Est-ce qu'il se reproduit? Est-ce qu'il est présent régulièrement ici? Alors qu'avec l'ordinateur, on arrive à savoir l'espèce qui passe dans le coin. C'est tout.
Ouais, Jean-François, qu'avez-vous amené là?
Ah ben, je vous ai amené un petit récepteur d'ultrason. Vous entendez là? Voilà, ça c'est une chauve-souris.
On en voit encore deux passer, donc oui.
Voilà. Et ça, c'est probablement une pipistrelle, vu la longueur d'onde.
Oui, vous les avez quand même bien dans l'oreille aussi. Hein. Alors Jean-François, parlez-nous quand même. On sait comment fonctionnent globalement donc les chauves-souris, mais un petit rappel ne peut pas faire de mal pour se diriger. Donc l'écolocation.
Alors l'écolocation, bah, c'est des cris ultrasoniques que nous, on n'entend pas, en principe, avec nos oreilles, et qui sont émis par la bouche ou par le nez, quand l'animal a besoin, c'est-à-dire quand elle est au repos pour savoir les relations avec l'environnement autour. Et ce cri, il va partir devant l'animal, évidemment. Il va buter contre des proies ou des obstacles et revenir, être analysé par les deux oreilles. Les deux oreilles sont très mobiles. Pourquoi ? Ben justement pour que l'écho de l'oreille droite donne une direction, l'écho de l'oreille gauche une autre direction, pas la même, c'est pour ça que les oreilles bougent, et à l'intersection des deux, c'est là qu'il y a l'obstacle ou la proie. Alors ce qui est remarquable, et ce qui intéresse beaucoup les militaires d'ailleurs, c'est que ça se fait en vol, et donc elle est capable de corriger en fonction de son vol. On pense qu'elle sait déterminer si c'est chaud, si c'est froid, voir si c'est dur ou si c'est mou. C'est quand même pas mal ça.
Mais est-ce qu'elle fonctionne aussi à la vue ?
Bien sûr, elles y voient, elles ne sont pas du tout aveugles. D'ailleurs, vous avez pu voir le petit rhinolophe, il nous a regardé, on a vu que dans la lampe, on a vu un éclair dans ses yeux. Bon, ce n'est pas une vue extrêmement performante, mais on le voit bien quand l'animal est en plein jour, et d'ailleurs certaines sortent en plein jour.
Et de temps en temps, donc, si leur radar est brouillé, c'est là qu'il y a des problèmes.
Et c'est quand elles mangent qu'elles ne peuvent pas émettre les ultrasons. Et donc, à ce moment-là, elles ont une mémoire visuelle et auditive extrêmement développée. Et une chauve-souris, même à la limite, émettre des cris, c'est pour elles une dépense d'énergie très importante. Donc, très souvent, quand elles sont sur des endroits qu'elles connaissent très très bien, par cœur, elles n'ont absolument pas besoin d'émettre des ultrasons. Et si moi, je mets mon filet à cet endroit-là, par exemple en sortie de grotte, là, je les attrape très facilement parce qu'elles connaissent particulièrement bien la grotte dans laquelle elles sont, la sortie, etc. C'est après qu'elles vont mettre en place le système qui leur coûte beaucoup d'énergie, qui leur permet d'émettre ces ultrasons et qui leur permet de chasser.
Voilà, la nuit est presque tombée. Nos petits yeux, on n'est pas totalement nyctalope, hein. C'est la grande différence avec mon chat. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais... Là, on se met sur le pont.
Voilà, ça c'est des pipistrelles. Ouais. Elles passent au-dessus du pont.
Hop là.
C'est classique. Ouais. Bon, c'est un vol très papillonnant. Elles restent toujours dans le même secteur. C'est un animal qui est assez sédentaire, qui s'habitue assez bien à la présence humaine, qu'on va trouver en ville, qui va tourner autour des lampadaires, qui est chassé des mouches, des petits insectes, des papillons nocturnes qui sont autour des lampes. Alors certaines espèces de chauves-souris vont être un peu attirées par ces lumières, et d'autres au contraire vont fuir, elles sont lucifuges. Et donc la pollution lumineuse est une des causes de dérangements importants chez les chauves-souris. Et quand on parle de corridors biologiques et d'espace à maintenir pour que les chauves-souris puissent passer d'un endroit où elles passent l'hiver à un endroit où elles passent l'été, eh bien, le fait d'avoir des zones d'ombre et sans éclairage, c'est extrêmement important. Les corridors noirs, on appelle ça, les couloirs noirs.
Alors, parmi les ennemis des chauves-souris, bon, on va dire qu'il y a les chats, il y a les éoliennes, il y a les pesticides.
Alors dans l'ordre, c'est difficile à dire, mais ouais, je pense que déjà les pesticides, c'est incroyable. D'ailleurs, pas que les chauves-souris, mais toute la faune des insectivores. Et les insectivores, au départ, sont gênés parce que les pesticides tuent les insectes. Et donc, ils ont beaucoup moins de nourriture. Cette diminution des insectes, elle nuit aux chauves-souris, elle nuit à tous les insectivores, c'est-à-dire les oiseaux, les hérissons, etc. Et les musaraignes. Mais c'est vraiment un problème énorme. Même si on arrêtait demain le glyphosate ou les autres pesticides, parce qu'il y a des quantités qui sont... Il n'y a pas que le glyphosate.
Ils sont beaucoup plus violents, en plus.
Et il y en a d'autres qui sont encore plus violents. Ouais. Par exemple, en pleine de Bièvre, ici, on a découvert que nous respirions encore des pesticides qui sont interdits depuis 15 ans. Donc, c'est le gros problème des chauves-souris. Après, bon, les éoliennes. Ben oui, c'est clair que les éoliennes... Moi, je suis quand même étonné de voir qu'on est capable de faire fonctionner un robot sur la planète Mars et qu'on n'est pas capable de comprendre pourquoi les chauves-souris se font tuer par les éoliennes et comment on pourrait faire pour que ces éoliennes marchent, parce que c'est très intéressant, sans tuer les oiseaux et les chauves-souris. Mais bon, on pourrait sûrement trouver une combinaison pour que les éoliennes ne tuent plus les chauves-souris.
Jean-François Noblet, qu'est-ce qui vous épate chez cet animal, chez ce mammifère, parce que c'est un des premiers que vous avez, vous, étudié, et puis bah, vous y intéressez encore.
Bah, moi, je trouve que c'est des animaux extraordinaires, qui sont encore assez inconnus aujourd'hui, on découvre des choses tous les jours. Ouais. J'ai toujours été très intéressé par les chauves-souris que j'ai apprivoisées, parce que moi, j'avais un ami qui était professeur dans une université, qui avait soigné une noctule commune, c'est une grosse chauve-souris qui vit dans les forêts, et qui était blessée, et donc elle était apprivoisée, il la mettait dans la poche de sa veste, de sa blouse blanche, et de temps en temps, quand il faisait un cours sur les chauves-souris, il la faisait sortir, il faisait un petit cri, et la chauve-souris sortait, elle volait un petit coup, elle revenait se poser, et se rangeait dans la...
Mais en fait, pourquoi elles se mettent la tête en bas?
D'abord, toutes les chauves-souris ne se mettent pas la tête en bas. Celles qui sont tout le temps la tête en bas, c'est celles qui sont dans des volumes. Donc elles s'accrochent avec leurs pattes et elles ont un système étonnant. Quand elles s'accrochent, les ongles s'accroche à une petite fissure, à un petit bout de grillage comme on a mis dans notre bâtiment là. Et alors, le poids de l'animal fait descendre un tendon qui bloque l'animal sans effort, suspendu. À tel point que si jamais elle meurt, elle reste suspendue.
Ça, c'est la chouette-ulotte.
Et ça, c'est un prédateur
de la chauve-souris.
Ah ben oui, tous les rapaces nocturnes.
Ils y vont.
Même les rapaces diurnes, d'ailleurs, quelquefois. Les petits carnivores, certains serpents, les petits rongeurs.
Ben c'est malin, il y en a 14 qui dégarpissent, là. Hop. Ah oui, direction opposée. Là.
C'est dingue.
Bon, ben voilà, ben c'est gagné. C'est fini le reportage. Ben voilà, grâce à vous. Écoutez, bonne nuit.
Bonne nuit.
Et bientôt, Jean-François.
Salut, Denis.
Voilà, je pense que vous êtes à peu près au point sur cette chauve-souris. Évidemment, vecteur de zoonose, assurément, il y a eu quelques cadrages. Hein. Directement, c'était en Guyane, c'était aux États-Unis. Mais sur les 1400 espèces de chauve-souris, ça représente quand même un quart hein, des 5000, c'est un quart, pardon, des mammifères, hein, au nombre de 5000 à peu près, dont nous d'ailleurs. Il faut dire qu'en proportion, ces chauves-souris n'ont pas plus de virus que n'importe quel autre groupe de mammifères. Alors, très longtemps, donc, elles furent tout à fait négligées. Aujourd'hui, on se met au niveau des connaissances, car elle supporte ces virus, elle, sans conséquence. Donc il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais il faut s'en débarrasser !» Non, 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 c'est bien plus intéressant de se poser la question « Comment font-elles ? Quelle immunité les protège du virus qui, lui, nous rend malades ?» Je peux vous renvoyer sur le livre de Jean-François Noblet, qui s'appelle « Agir pour la biodiversité, tout autour de moi », c'est aux éditions Plume de Carotte. Il me reste à remercier Camille Blanès, Xavier Pestugia et Jérôme Boulet, qui a colorisé cette semaine ce reportage, Thierry Dupin, Anne Gouzon donc, qui nourrit les sites. Alors, la semaine prochaine, changement de climat, nous irons du côté du triangle de Gonesse, donc, qui a échappé fort heureusement à Europa City, notre président donc, s'y est opposé, mais la suite n'est pas gagnée forcément pour le maraîchage, on fera le point. Le podcast, aussi bien pour CO2 Mon Amour que l'Atu du Mon Petit Loup, vous en avez l'habitude, abonnez-vous à ces podcasts, le Twitter Denis Chessou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, du ski de fond si vous êtes en Normandie. Moi je regarde le temps là, ah oui, ça y est, sur Paris ça neige, bon donc je vais prendre des raquettes et vous laisser.